Du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2025, à la paroisse Saint-Pierre de l'Océan, le relais paroissial de Cibourg organisait un cycle de conférences sur le thème « Une église vivante, un monde à aimer », 60 ans après le Concile Vatican II, célébrons l'espérance. Aujourd'hui, nous vous proposons d'entendre la première de ces interventions. Elle était présentée par l'abbé Rikei Totelus sur le thème 1965-2025, une idée générale sur le Concile Vatican II. Nous écoutons l'abbé Rikei Totelus.
Bonsoir à tous. Et bon, être assis comme ça, ça fait sérieux tout ça. Je vais essayer de me mettre bien à l'aise. J'avoue que j'ai un peu le tract quand même en vous voyant. Et je remercie la Béanice de m'accueillir aujourd'hui pour ouvrir cette semaine de réflexion sur le Concile Vatican II à l'occasion des 60 ans du Concile. Et je remplace l'abbé François de Mesmé qui est indisponible pour ce soir. Donc il m'a demandé de le remplacer pour cette conférence. Alors, conférence, c'est peut-être un mot un peu pompeux pour dire mon intervention ce soir. On va dire tout simplement pour cette intervention de ce soir. Qu'une conférence, ça fait un peu trop sérieux, même si nous parlons de quelque chose de sérieux. Alors, le titre qui a été choisi, le thème, c'est « Une idée générale sur le Concile Vatican II ». Je me dis, ça m'arrange parce que « idée générale » signifie « être dans les généralités ». Donc, du coup, pour commencer un cycle d'intervention ou de conférence, c'est bien d'avoir ce premier rôle, d'introduire et de laisser à ceux qui vont suivre de bien approfondir. Voilà. C'est un peu ce que je vais faire ce soir. Je vais ouvrir des horizons peut-être, des pistes de réflexion, et je vois M. Chalmin qui est là, et vendredi, M. Chalmin aura peut-être la lourde charge de bien conclure avec toutes les réflexions bien approfondies. Et une deuxième chose aussi, je me dis, ça m'arrange parce que quand j'ai demandé à Nice combien de temps il me faut, il m'a dit 30 minutes. J'avoue que c'est très bien. Ça vous va aussi? Parfait. Bien. Une idée générale sur le Concile Vatican II. Idée générale signifie, qu'est-ce que cela signifie pour vous quand vous entendez Vatican II? C'est peut-être la première question que nous avons chacun à nous poser. Quand vous entendez quelqu'un évoquer Vatican II, quels sont les premiers mots ou peut-être même les premières expressions qui vous viennent à l'esprit? Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Et j'imagine si je fais en quelque sorte un micro-trottoir, si on n'est pas dehors ici, je demande à chacun qu'est-ce que cela signifie pour lui Vatican II. Chacun aura une réponse un peu différente. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va découvrir qu'il y a quelque chose qui s'appelle Vatican II. À ce propos, je vous raconte quelque chose. Et pas plus tard que ce matin, il y avait quelqu'un que j'ai rencontré. Puis j'ai dit, je suis un peu occupé parce que je dois faire une intervention sur le Concile Vatican II. Et il me dit, c'est quoi le Concile Vatican II? Moi, j'étais étonné. Je me suis dit, mais il y a quelqu'un dans ce monde qui ne connaît pas ce que c'est le Concile Vatican II. Ben, à plus forte raison, je me suis dit, peut-être c'est important d'essayer de définir d'abord ce que c'est un concile. Qu'est-ce que c'est un concile? Et pourquoi un concile est convoqué, puisque c'est le mot qui est utilisé, convoqué. Comment ça se déroule? Et quels sont les différents types de conciles qu'il y a? Puisque vous ferez attention qu'on dit concile œcuménique Vatican II. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres conciles qui ne sont pas écuméniques. Mais c'est le premier point de mon plan, définir le concile. Qu'est-ce que c'est un concile? Le concile vient d'un mot latin, concilium, qui signifie assemblée. Un peu, vous savez, comme ecclesia, qui signifie aussi assemblée. Et le concile, c'est donc une convocation ou encore une réunion d'évêques venus débattre ou même décider de questions qui peuvent être dogmatiques ou disciplinaires pour la vie de l'Église. Et le but d'un concile, c'est de définir ou de préciser ou même parfois de réaffirmer la doctrine de la foi. Et dans ce sens, nous voyons que les premiers conciles ont eu lieu dans des temps de crise, ou ont été suscités, ou même provoqués, parce qu'il y avait une hérésie. Et on viendra un peu plus tard sur cette question. Et le concile aussi peut avoir pour but de redresser ou même de réformer la discipline de l'Église. Et c'est ce que nous avons avec, par exemple, le concile de Trente, qui avait aussi pour mission, au moment de la réforme, donc de bien, consolider la contre-réforme, mais aussi de redéfinir ou de redresser ou de réformer la discipline de l'Église, notamment sur la formation des prêtres et des clercs. Et un concile aussi est validé normalement par le pape. Quand je dis le concile est validé par le pape, c'est-à-dire la série de propositions ou d'actes que produit le concile est validée par l'autorité papale pour que cette série de propositions ou d'actes puisse entrer en vigueur. Donc ça aussi, c'est un élément important, que les évêques sont réunis, donc sont convoqués pour débattre et décider de questions dogmatiques ou disciplinaires, mais aussi sous l'autorité du pape, autour du pape, qui doit valider les actes et les propositions du concile. Et maintenant, nous pouvons peut-être évoquer les différents types de conciles qu'il peut y avoir. Le concile œcuménique, c'est un mot un peu difficile pour moi, ou universel, c'est le concile qui est convoqué bien sûr par le pape, mais qui rassemble la totalité des évêques chrétiens. Il y a une nuance entre un concile général et un concile œcuménique. Donc, œcuménique signifie un concile universel qui rassemble tous les évêques chrétiens. Alors qu'un concile général se limite uniquement au monde catholique. C'est une petite nuance qu'on n'entend pas souvent, mais qui est importante. Et à tort, peut-être, on le verra, on appelle le concile Vatican II œcuménique dans ce sens, puisque c'est vrai qu'il y avait des observateurs qui étaient chrétiens, bien sûr, donc qui étaient en dehors du monde catholique, mais ils n'étaient pas forcément acteurs du concile. Et il y a aussi le concile provincial, donc c'est un concile qui est cette fois convoqué par les évêques d'une même province ecclésiastique, et qui est convoqué en quelque sorte par l'archevêque. Les évêques sont convoqués par l'archevêque de la province ecclésiastique en question. Nous pouvons imaginer que dans notre diocèse, nous puissions vivre un concile donc convoqué par l'archevêque de Bordeaux, puisque nous sommes dans cette province ecclésiastique. Et un deuxième type de concile, on appelle le concile national ou plénier, donc qui réunit quant à lui les évêques d'un même pays. N'oublions pas toujours le but, c'est de discuter ou de décider de questions dogmatiques et disciplinaires pour l'Église. En général, quand c'est un concile œcuménique ou universel ou même général pour toute l'Église et pour une Église particulière, le concile provincial ou concile national. Alors, passé ces petits détails un peu techniques, nous allons entrer en quelque sorte dans le vif du sujet. Le concile Vatican II. Donc, nous voyons que le concile doit être convoqué par le pape. Le concile Vatican II a été convoqué par qui ? Jean XXIII convoque donc les évêques du monde entier pour tenir un concile. Et le pape Jean XXIII voulait que ces évêques se retrouvent, se réunissent à Rome, parce que l'Église, à ce moment-là, avait besoin de ce que le pape Jean XXIII appelle un aggiornamento. Nous reviendrons sur ce terme qui signifie en italien une mise à jour. C'est l'expression italienne que le pape, qu'on a prêtée au pape, il en parle quelquefois dans certains documents, mais pas dans l'annonce officielle forcément du concile. Donc cet aggiornamento, cette mise à jour, pourrions-nous dire aujourd'hui, ou pour les plus jeunes, un update, qui est habitué à vos smartphones qui tout le temps vous demandent de mettre à jour, c'est a été une question, est une question, une affaire de toute l'Église. Je voudrais juste reprendre un petit peu une sorte de chronologie, ou bien rappeler une chronologie. Le pape Jean XXIII est élu le 28 octobre 1958. Le cardinal Roncalli est élu pape. Et le 25 janvier 1959, il annonce son intention de convoquer un concile œcuménique. Et le concile va effectivement être convoqué de manière officielle le 25 décembre 1961. Convocation officielle du concile avec la bulle ou la constitution apostolique Humanae Salutis. Donc entre l'annonce de l'intention du pape de convoquer ce concile, rappelons-nous à Saint-Paul hors les murs, à la surprise de tout le monde, quand je dis rappelons-nous comme si nous étions là. Mais voilà, le pape Jean XXIII a surpris un peu tout le monde en annonçant cette intention de convoquer ce concile. Et il s'est écoulé un peu de temps pour préparer jusqu'au 25 décembre 1961. Pendant ce temps, entre le 25 janvier 1959 et le 25 décembre 1961, il y a en quelque sorte de l'organisation qui est mise en place. C'est ce qu'on appelle les commissions. Et ça va avoir une importance particulière, quelque chose de très important pour ce que je vais vous raconter un peu. La mise en place de 10 commissions préparatoires, donc des experts en théologie, des gouvernements de diocèse, des experts en la discipline du clergé, du peuple chrétien. Aussi, le pape Jean XXIII a mis aussi en place deux organismes importants, l'unité des chrétiens, le dicastère qui deviendra secrétaire d'État pour l'unité des chrétiens et pour la communication sociale. Donc ces organismes vont élaborer en quelque sorte 70 projets soumis au concile, ce qu'on appelle les schémas. 70 schémas. Bien, revenons un peu à notre concile, là où on en était avant d'arriver à ces 70 schémas. Le pape Jean XXIII convoque donc son concile. Les évêques arrivent un peu de partout, de tout le monde, de tout le monde chrétien. Et pour la première fois, en quelque sorte, des observateurs qui ne sont pas catholiques vont aussi être invités, conviés à discuter, à débattre aussi de ces questions importantes. Voilà pourquoi le Concile Vatican II, en dehors de la rareté de l'événement, aussi constitue un événement majeur dans l'histoire de l'Église. Parce que depuis beaucoup de siècles, pour la première fois, un concile va réunir, même si chacun a un niveau de participation qui est le sien, mais va réunir des acteurs ou des ecclésiastiques, des pasteurs, des laïcs venus de tout le monde religieux, chrétien et non chrétien. Tout ce monde se retrouve dans la basilique Saint-Pierre pour vivre le concile. Comment se déroule un concile? Un concile se déroule en plusieurs sessions. Pour certains conciles, ça a été une seule session, parce qu'il y a des conciles qui sont plus courts que d'autres, et d'autres conciles ont été très très longs. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire de tous les conciles de l'Église, et l'Église reconnaît, en tout cas, officiellement, plus ou moins une vingtaine de conciles. Et le Concile Vatican II est le 21e concile de l'Église œcuménique, 21e concile de l'Église. Alors, le premier concile, c'est le concile de Jérusalem, en 49. En l'an 49, c'est ce que nous trouvons dans les Actes des Apôtres. Je partirai de là pour voir comment se déroule un concile, comment ça se fait, puisque c'est le modèle de tous les conciles, même si dans l'histoire, comme quand les théologiens comme Yves Congar le reconnaissent, que les conciles varient dans l'organisation, mais il y a toujours une structure fondamentale, une structure qui fait que cet événement est reconnu toujours comme un concile. Et cet événement, en tout cas cette structure, nous la retrouvons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, versets 1 à 35. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques années après la mort de Jésus et sa résurrection, donc en 49, les apôtres et les anciens vont se réunir pour délibérer de l'obligation de soumettre les païens convertis au christianisme à la loi de Moïse et aux coutumes juives, comme la circoncision, par exemple, dans la perspective de leur salut. Et dans ce problème, la question qui est posée en filigrane est celle-ci. La foi en Jésus est-elle suffisante pour être sauvée? Voilà la première question qui a suscité un concile dans l'Église. La foi en Jésus est-elle suffisante pour être sauvée? Rappelez-vous que je vous ai dit, un concile est convoqué pour préciser, pour réaffirmer, pour décider de questions dogmatiques et disciplinaires dans la vie de l'Église. Et là, la première question du concile de Jérusalem, que l'on considère comme le premier concile, est une question fortement dogmatique qui révèle de la foi. La foi en Jésus est-elle suffisante pour être sauvée? Donc, vous imaginez quelle est la réponse. Mais je vous résume en quelque sorte, je vous lis même les résultats qui ont été communiqués à toute la communauté chrétienne après cette assemblée à Jérusalem. Donc l'assemblée qui a été l'assemblée de Jérusalem informe par écrit de sa décision que nous lisons dans ces derniers versets des Actes des Apôtres, donc les versets 30 à 35. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables. Vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang des chairs étouffées et des unions illégitimes. Premier document d'un concile. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer, etc. Donc l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé, une décision de l'Église. Et dans l'histoire de l'Église vont suivre d'autres conciles, dont les 8 premiers conciles œcuméniques, qui se déroulent presque tous dans la partie orientale de l'Empire romain. Et il y a un, tous sont très, assez importants, mais il y a un qui est important, puisque nous sommes aussi dans cet anniversaire du concile de Nicée, en 325, le premier concile œcuménique à Nicée, qui définit, en tout cas qui réaffirme en quelque sorte la formulation du credo, qu'on appelle le credo de Nicée, et qui définit, qui affirme la divinité pleine et entière de Jésus-Christ. Je ne vais pas faire l'histoire de tous les conciles, parce que je pense que ça pourrait nous prendre un peu plus que 30 minutes, mais peut-être je vais évoquer avec vous, même si j'ai déjà fait mention, du concile de Trente, qui, quant à lui, a été crucial dans la contre-réforme. Donc, réforme, contre-réforme, vous voyez ce que c'est. La réforme protestante et l'Église catholique, en quelque sorte, pour s'affirmer et se réaffirmer après la réforme protestante, a institué le mouvement qu'on appelle la contre-réforme. Il y a une belle église à Rome qui est tout à fait une illustration de ce qu'est la contre-réforme. C'est l'église des jésuites à Rome. Quand vous y allez, c'est splendide. Qui a été en quelque sorte une illustration de ce qu'est la contre-réforme. Donc, par la contre-réforme, le concile, en tout cas le concile de Trente, réaffirme les doctrines catholiques face à la réforme protestante en réformant la discipline ecclésiastique, réforme du clergé et de la liturgie, mais aussi en réaffirmant de manière très forte la foi en la présence réelle dans l'Eucharistie. Ça, c'est le point dogmatique, pourrions-nous dire, théologique du Concile de Trente. réforme du clergé, de la liturgie, la formation des prêtres, mais aussi affirmation forte de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et s'il y a Vatican II, c'est qu'il y a eu Vatican I. Ah, oui, en effet, il y a eu Vatican I. Qui a entendu parler de Vatican I? Oui, voilà. C'est vrai qu'on se rappelle beaucoup de Concile de Nicée, Concile de Trente, Chalcédoine, Concile d'Éphèse. C'est vrai qu'on sait le Vatican I, on ne se rappelle pas beaucoup. Et ça a été un concile, bien sûr, qui n'a pas duré longtemps, puisque c'est un concile qui s'est déroulé entre 1869 et 1870, qui s'est interrompu à cause des contextes historiques, comme par exemple la guerre franco-prussienne et aussi l'envahissement de Rome. Donc, ce concile a été interrompu, mais ce concile a défini ce qu'on appelle l'infaillibilité papale. Qu'est-ce que c'est l'infaillibilité du pape? C'est ce décret du Concile Vatican II, cet article du Concile Vatican I, qui affirme que le pape est infaillible lorsqu'il proclame ex cathedra des doctrines concernant la foi ou les mœurs. Donc, le pape est infaillible quand il affirme ou il proclame ex cathedra, c'est-à-dire de son trône, quand il parle en tant que pape, des doctrines concernant la foi ou les mœurs. Alors, cette question de l'infaillibilité papale a été une question, et encore aujourd'hui une question aussi très polémique. Comme on l'a dit, c'est une idée générale sur le Concile Vatican II, on ne va pas entrer dans les détails. Et si vous avez des questions sur l'infaillibilité papale, vous pourrez les poser aux conférenciers de demain. Mais peut-être éclaircir quand même quelque chose en fait sur cette infaillibilité papale qui est l'infaillibilité de l'Église, puisque le pape représente en quelque sorte, incarne l'autorité de l'Église qui proclame une vérité, qui enseigne quelque chose qui concerne la foi ou les mœurs. C'est pas la personne du pape en tant que tel qui est infaillible, comme tout être humain. Le pape est quelqu'un comme vous, comme moi, bien sûr, avec les mêmes grâces aussi que nous pouvons recevoir, mais aussi avec les mêmes fardeaux que nous pouvons porter. Mais il peut y avoir une grâce spéciale, il y a une grâce spéciale, vu sa charge de successeur de Pierre, et qu'il puisse, quand il proclame ce qui concerne la foi ou les mœurs, qu'il soit dans la vérité, parce qu'il parle au nom de l'Église. On pourra en discuter après. Je vous vois un peu perplexe. Soit peut-être mon explication n'est pas claire et pas trop convaincante. Donc, le concile s'est interrompu en 1870. Et beaucoup de papes, depuis, ont été élus sur le siège de Pierre. Nous avons le pape Pie IX, donc, qui a été au Concile Vatican I, après il y a eu Léon XIII, après il y a eu Pie X, Pie XI, Pie XII, et pas de concile. Et pourtant, l'Église traversait des moments quand même de crise, et même le monde, pourrions dire. Et peut-être pour ça, c'est pour ça qu'un concile ne pouvait pas, pratiquement n'était pas possible, puisque nous avons des contextes de guerre, de grands bouleversements dans le monde. Et même si les historiens rapportent que le pape Pie XI, Pie XII ont eu le désir soit de continuer le concile Vatican I ou bien de convoquer un autre concile, en tout cas dans le même esprit, voilà, mais ça n'a jamais été mis en acte. Et lorsque le pape Pie XII est décédé et que le pape Jean XXIII, le cardinal Rancalli, est élu, tout le monde pense à un pape de transition, comme on a coutume de dire à Rome. Voilà. Il n'a pas été élu dans les premiers scrutins, donc c'était compliqué, voilà, de trouver le pape. Ben, en attendant qu'il y ait une figure qui puisse rassembler tout le monde, ça a l'air d'être un coup politique, mais c'est pas du tout ça. Mais le pape Roncalli, le cardinal Roncalli, est élu pape Jean XXIII, pape de transition, 76 ans, si je ne me trompe pas. Donc on se dit, c'est pas lui qui va convoquer un concile. Oui, à la surprise de tout le monde, il raconte, il dit qu'il a cette intuition, qu'il sent qu'il faut qu'il convoque un concile. Alors, je vous le dis comment il formule ce fait dans la bulle qu'il va publier le 25 décembre 1961 pour convoquer officiellement le concile. C'est pourquoi, obéissant à une voix venue de notre cœur, comme une inspiration surnaturelle, nous avons pensé que les temps étaient mûrs pour donner à l'Église catholique et à toute la famille humaine un nouveau concile œcuménique, venant s'inscrire à la suite des 20 grands conciles qui, tout au long des siècles, nous ont valu tant de progrès chrétiens, tant d'accroissement de grâce dans les cœurs des fidèles. C'est la bulle Humanae Salutis. Obéissant à une voix venue de notre cœur comme une inspiration surnaturelle. Donc, la décision de convoquer un concile n'est pas seulement une décision humaine, comme le pape nous le fait comprendre ici. Il y a, il dit, une inspiration surnaturelle, mais on va dire, dans sa charge de successeur de Pierre, bien sûr, je pense que l'Esprit-Saint a le droit, de souffler et d'inspirer le pape. Les temps étaient mûrs pour donner à l'Église catholique et à toute la famille humaine un nouveau concile œcuménique, venant s'inscrire à la suite des 20 grands conciles. Donc, ici encore, le pape annonce quelque chose qui va être déterminant dans le concile, qui va définir le concile. Ce concile s'inscrit dans les 20 grands conciles. Souvent, on représente le concile de Vatican II comme une rupture totale. On viendra sur cette terminologie que parfois on utilise pour parler du concile Vatican II. Mais le pape Jean XXIII nous dit que le concile s'inscrit dans les grands conciles de l'Église. Donc il y a toujours une logique, en tout cas un fil conducteur, quelque chose qui lie les conciles qui ont précédé avec le dernier concile de l'Église. C'est pas comme changer de régime ou de gouvernement, ou voilà, il n'y a plus rien. Non, c'est toujours, comme le pape le dit, tous ces conciles qui ont valu tant de progrès chrétiens, tant d'accroissement de grâce dans les cœurs des fidèles. Il y a une logique d'accroissement. Chaque concile fait grandir l'Église, en quelque sorte. Pas en enterrant ce qui a précédé, mais en faisant grandir, accroître encore plus ce qui a été reçu de ce qui a précédé. Le pape Jean XXIII ne verra pas une session des conciles. Je me trompe, il verra la première session, pardon, parce qu'il est mort plus tôt en 1963. Et la première session est 1962, décembre 1962. Donc, le pape Jean XXIII lance le concile et des témoins, en tout cas de cette époque, ou même qui étaient proches du pape, rapportent que le pape Jean XXIII ne savait pas trop ce que ça allait donner, ce concile. On raconte, même s'il y a d'autres qui disent que ce n'est pas tout à fait exact, on raconte qu'un jour, quelqu'un lui avait demandé qu'est-ce qu'il attend de ce concile qu'il a convoqué. Et encore un bon italien, tu m'en lo so, je ne sais pas. Et il va vers la fenêtre, il ouvre la fenêtre, puis il dit, au moins un peu d'air frais. Je ne sais pas si c'est... Alors, il y a quelqu'un qui était son secrétaire qui dit qu'il n'aimait pas trop les courants d'air, donc c'est pas tout à fait... Voilà, ça peut paraître pas tout à fait juste, puisqu'il n'aimait pas être dans les courants d'air. Donc, première session du concile, 11 octobre à 8 décembre 1962. 11 octobre, l'ouverture solennelle du concile. Grande célébration à Saint-Pierre, à la basilique, sur la place Saint-Pierre. Grande messe d'ouverture. Les évêques venus du monde entier, les observateurs, les médias, le média est là. Tout ce monde est réuni, rassemblé pour célébrer cet événement. Deux jours plus tard, le 13 octobre, on commence les travaux. Le travail commence. Ce travail bien préparé, comme nous l'avons vu, vous vous rappelez, les 70 schémas dont je vous ai parlé, toutes les commissions qui ont été établies, constituées. Donc, tout ce beau monde, les évêques sont réunis. Et puis la curie romaine qui a déjà bien préparé le concile, les schémas pour le travail, commence à distribuer les papiers, les schémas aux évêques qui sont là pour pouvoir lancer le concile, les travaux du concile. Il s'agissait d'élire, dans ce premier jour, les évêques qui vont être membres des différentes commissions qui sont constituées. Donc, ils sont à peu près 2000 évêques, donc il faut choisir. Comme à la Curie, on sait plus ou moins déjà qui sont les évêques qui peuvent faire partie de telle commission, on suggère des noms déjà pour faciliter cette élection. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. C'était sans compter sur un archevêque français, l'archevêque de Lille, Monseigneur Achille Liénard, le cardinal Liénard, qui se rend compte de cette difficulté et demande d'interrompre la séance pour que les évêques puissent faire connaissance un peu plus. Vous imaginez, la machine est déjà bien rodée, tout est bien préparé, tout est clair, on sait où on va, et tout d'un coup, le cardinal Liénard demande d'interrompre tout ça et de revenir dans 2 jours. Il est applaudi, soutenu par l'archevêque de Cologne, Joseph Frings, et applaudissements, même s'il y avait interdiction d'applaudir normalement au concile, applaudissements de toute l'assemblée. Donc du coup, le concile ne s'est pas démarré comme ça a été prévu. C'est peut-être une des premières choses à savoir du Concile Vatican II. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Ça ne s'est pas démarré comme ça a été prévu. Et d'après les observateurs, ceux qui interprètent cet événement, ce moment dans l'Église, ils se disent, tout d'un coup, les pères conciliaires ont pris à leur surprise même le pouvoir sur le Concile. Donc ils vont faire leur concile, pas le concile préparé, mais leur propre concile. Ça, c'est une lecture qu'on peut avoir de cet événement. Mais je pense que le cardinal Liénard était plutôt peut-être quelqu'un de très pratique et il a compris qu'il fallait en quelque sorte que tout ce beau monde, en plus qu'ils vont s'exprimer en latin, c'est mieux de se connaître avant, de travailler ensemble. On va le considérer comme ça. Donc, travaux des commissions conciliaires le 13 octobre 1962, donc repoussés, tout ne s'est pas passé comme prévu par la Curie, à cause de l'intervention du cardinal Liénard. Donc, cette session qui s'étend de 11 octobre à 8 décembre 1962, ne va pas produire de documents ou bien voter de documents définitifs. Il va avoir un temps qu'on appellera le temps de l'intercession, pas avec ses intercessions, c'est-à-dire le temps entre deux sessions du Concile. Le Concile se déroule en quatre sessions du Concile Vatican II. Et il est important aussi de jeter un regard sur ce qui se passe pendant ce temps, entre une session et l'autre. Entre une session et l'autre, il y a bien sûr les experts, les commissions qui travaillent, mais il y a aussi l'événement de l'Église. L'Église continue à vivre, il y a des événements dans la vie de l'Église. Premier événement de la vie de l'Église dans cette intercession, c'est la publication de l'encyclique du pape Jean XXIII, Pacem in Terris, sur la paix, en avril 1963. Le grand événement, ou événement majeur aussi de cette intercession, c'est le décès du pape Jean XXIII, qui est mort en juin 1963, le 3 juin 1963. Donc, crise aussi quant à l'avenir du Concile. Qu'en sera-t-il? Puisque, comme vous savez, dans tous ces grands événements, il y a toujours des pour et des contre. Ne sera-t-il pas l'occasion pour ceux qui ne veulent pas le Concile, du Concile, ils prennent un peu le pouvoir, ou bien le Concile sera-t-il mené au bout? Après le pape Jean XXIII, quelques jours, même quelques semaines, le 21 juin 1963, est élu le cardinal Montini, le pape Paul VI, Saint Paul VI. Et Paul VI annonce donc son intention, en juin, le lendemain même de son élection, l'intention de continuer le concile. Ouf, le concile est sauvé. Et la deuxième session sera convoquée de septembre 1963 à décembre 1963. Et le premier document va être promulgué. Le premier document du Concile Vatican II promulgué, c'est la Constitution sur la liturgie et aussi le décret sur les communications sociales. C'est un document qu'on appelle en latin Sacrosanctum Concilium. Les titres des documents du Concile sont les premiers mots en latin du document. Comme ça, vous avez Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, vous avez Agentes Nostra Aetate, Gaudium et Spes, ainsi. Donc, ce premier document est promulgué par le pape Paul VI et le 4 décembre 1963. Et donc, encore un autre temps d'interruption du Concile, temps de l'intercession entre décembre 1963 à septembre 1964. Il y a quand même un bon laps de temps. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Voyage du pape Paul VI en Terre Sainte. Et au cours de ce voyage, le pape Paul VI rencontre le patriarche orthodoxe Athénagoras, événement majeur aussi dans la vie de l'Église. Alors, je vous raconte tout ça, ça peut paraître pas très très vivant, mais c'est parce qu'il y a quand même, en même temps que le Concile se déroule, tous ces événements apportent quelque chose dans l'histoire de l'Église et dans ce qui va se passer aussi au Concile. La rencontre du pape Paul VI avec le patriarche orthodoxe Athénagoras ne peut pas être sans incidence sur ce qui se passe pendant le Concile et sur la vie de l'Église. Et en août 1964, le pape Paul VI publie l'encyclique Ecclesiam Suam sur les dialogues et l'Église. Et le pape Paul VI va prendre une décision importante pour le Concile aussi à ce moment-là. Le pape Paul VI va décider de réduire le nombre de schémas à 16. Nous passons de 70 schémas à 16. Parce qu'il se dit, il faut quand même qu'on avance. Il faut, parce que 70 schémas, craignais que, en quelque sorte, qu'on ne puisse pas amener jusqu'au à bout, en fait, qu'il ne puisse pas surtout amener à bout sa mission. Donc, on passe de 70 à 16 schémas, et ce qui va peut-être donner les 16 documents du Concile Vatican II. Donc, troisième session du Concile de septembre à novembre 1961, promulgation cette fois 64, pardon. Promulgation cette fois, merci, il y en a un qui suit. La promulgation de la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, une des constitutions aussi du Concile très connue. Et de nouveau, il y a d'autres documents qui sont promulgués, le décret sur les Églises orientales, la Constitution sur les Églises orientales, et aussi sur l'œcuménisme, Unitatis Redintegration. Un autre temps d'intercession, donc avant la quatrième et dernière session, et pendant ce temps, en décembre 1964, le pape Paul VI voyage en Inde. Encore dialogue avec une autre réalité religieuse aussi. Et le pape Paul VI décide vraiment qu'il faudra que l'on conclue le concile. Et il convoque ainsi cette quatrième et dernière session du 14 septembre au 8 octobre 1965. Donc nous voyons que le Concile Vatican II s'étend de 1962 à 1965. Et il y a tous les autres documents donc, qui ont été promulgués après la quatrième, la dernière session du Concile Vatican II. Encore une question technique sur le Concile Vatican II, un point technique. Vous voyez que dans les différents types de documents, je ne sais pas si... Voilà, je ne vais pas poser cette question, je vais le dire plutôt. Et il y a différents types de documents. J'ai parlé de constitution, de décret et de déclaration. C'est trois types de documents que l'on trouve dans le Concile Vatican II. Donc 16 documents qui sont divisés en ces trois catégories. Donc, vous comprenez que chaque catégorie a une importance, une valeur particulière. On ne va pas dire que l'une est plus importante que l'autre, mais n'ont pas tous la même valeur. Il y a quatre constitutions. La constitution sur la liturgie, Sacrum Sanctum Concilium, la constitution sur l'Église, Lumen Gentium, la constitution sur la parole, sur la révélation divine, Dei Verbum, et la constitution pastorale, Gaudium et Spes. On met parfois constitution dogmatique, par exemple, Lumen Gentium, constitution dogmatique, ainsi que Sacrum Sanctum Concilium. Et il y a 9 décrets. Je ne vais pas citer les 9, mais il y en a peut-être que vous entendez le plus souvent. Unitatis Redintegratio, par exemple, c'est un décret sur l'œcuménisme. Ad gentes, un décret sur les activités missionnaires de l'Église. Et il y a 3 déclarations. Donc, 4 constitutions, 9 décrets, 3 déclarations. Les 3 déclarations sont sur l'éducation chrétienne, Gravissimum Educationis, Nostra Aetate, sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, aussi très important pour le Concile Vatican II, et la dernière déclaration, Dignitatis Humanae, sur la liberté religieuse. C'est aussi une affirmation très forte du Concile Vatican II, la reconnaissance de la liberté religieuse. La différence entre une constitution, un décret ou une déclaration, une constitution a toujours pour objet une question dogmatique de la vie de l'Église. Un décret, c'est un peu comme dans le civil, une loi qui régit la vie de l'Église, et tous les catholiques sont normalement y adhèrent à cette loi. Donc voilà, qui va désormais régler et réguler le fonctionnement de tel aspect dans la vie de l'Église. Par exemple, le décret sur les églises orientales catholiques, Orientalium Ecclesiarum, donc c'est la loi sur le fonctionnement et les relations entre de ces églises orientales catholiques. On y discuté l'intégration aussi sur l'œcuménisme, donc comment réguler le rapport avec les chrétiens non catholiques. Et puis les déclarations sont, on va dire, ont une portée moins définitive. Les déclarations sont beaucoup moins définitives, c'est sur en quelque sorte une opinion sur un aspect, une réalité qui est liée à une vision pastorale, ça c'est très important, liée à une vision pastorale. Donc sur l'éducation chrétienne, vous comprenez que l'éducation évolue aussi, donc une déclaration est très liée à la vision pastorale que l'on aura. Donc, je voudrais terminer, puisque il ne me reste que 10 minutes, reprendre deux points qui sont d'abord deux expressions qui définissent un peu le concile ou sa réception. Ce qui définit le concile, c'est l'expression italienne que j'avais utilisée, aggiornamento, qui est utilisée par le pape Jean XXIII, pour dire ce que c'est le concile, l'esprit du concile, cette mise à jour de l'Église. Et le pape Jean XXIII l'exprime ainsi: il est nécessaire que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être fidèlement respectée, soit approfondie et présentée d'une façon qui corresponde aux exigences de notre temps. Aggiornamento, mise à jour. Doctrine certaine et immuable, approfondie et présentée d'une façon qui corresponde aux exigences de notre temps. Vous voyez, dans l'aggiornamento dont il est ici, il ne s'agit pas de rejeter, de changer, comme on dit, il y a quelqu'un une fois à qui j'ai expliqué quelque chose qu'il n'avait pas compris ainsi et qui m'a dit: on nous a changé la religion. Donc il ne s'agit pas de changer la religion dans l'aggiornamento, mais vraiment d'approfondir, en tout cas de comprendre avec les exigences de notre temps, la doctrine certaine et immuable. En d'autres termes, ce qu'on appelle le dépôt de la foi. C'est un peu l'expression qu'utilisent les théologiens pour dire cela, le dépôt de la foi. Et ailleurs, le pape Jean XXIII dit même qu'on ne regarde pas le dépôt de la foi comme un trésor, voilà, et qui concerne uniquement l'Antiquité, mais le dépôt de la foi doit pouvoir se dire, s'adapter à notre temps, en tout cas dans la manière de le présenter. Et l'autre expression, qui cette fois est relative à la réception du concile, c'est une expression qui est chère au pape Benoît XVI, qui a été aussi un acteur du Concile Vatican II, puisque le pape Benoît XVI, tout jeune théologien, aussi évêque, va être au concile comme expert qui va accompagner son archevêque, puisque les évêques débarquent au concile aussi. Les évêques ne savent pas tout de la théologie, donc ils débarquent aussi au concile avec leurs experts, c'est-à-dire les théologiens de leur diocèse qui sont capables d'éclairer, en fait, de leur expliquer certains points plus précisément de la doctrine. Donc le pape Benoît XVI, donc Ratzinger, à cette époque était un acteur en quelque sorte, il a participé au concile. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Mon Concile Vatican II du pape Joseph Ratzinger, où il raconte comment il a vécu le concile. C'est traduit en français, c'est un très bon livre. Donc le pape Benoît XVI, ce qu'il a repris quand il était élu pape, dans un discours en 2005 à la Curie, il parle de l'herméneutique de la continuité pour la réception du concile. herméneutique de la continuité. Le mot peut paraître compliqué, mais cela signifie tout simplement interprétation. Herméneutique, c'est la science de l'interprétation. C'est-à-dire, le concile, selon le pape Benoît XVI, n'est pas dans une rupture. C'est pas l'herméneutique de la rupture, c'est l'herméneutique de la continuité. Cette fidélité à ce qu'il appelle à l'aujourd'hui de l'Église. Et le pape dira, Benoît XVI, Joseph Ratzinger dira, que l'aujourd'hui de l'Église, c'est pour nous les documents de Vatican II. C'est l'aujourd'hui de l'Église, dans leur authenticité, sans réserve qui les ampute, ni abus qui les défigure. Alors, cette dernière phrase, elle est importante parce que toute la portée de ce qu'est l'herméneutique de la continuité est là. Sans réserve qui les ampute, ni abus qui les défigure. Et c'est exactement dans la réception du Concile ce qu'on peut observer. Il y a d'un côté beaucoup de réserves. On n'accepte pas ça du Concile, on n'accepte pas ça. Et de l'autre côté, il y a beaucoup d'abus aussi qui peuvent défigurer ce que la richesse du Concile apporte à l'Église. Donc, les documents de Vatican II sont l'aujourd'hui de l'Église, dit le pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger, dans leur authenticité, sans réserve qui les ampute, ni abus qui les défigure. Et je termine avec, peut-être, dans cette réception du Concile Vatican II, trois fruits, pourrions-nous dire, en tout cas, trois réalités que souvent nous évoquons lorsque nous parlons du Concile Vatican II. C'est d'abord le rapport de l'Église au monde. Si on parle de Vatican II, tout de suite, ce qu'on dit, c'est voilà, l'ouverture au monde, c'est l'ouverture, c'est ça, le rapport de l'Église au monde. Donc ce rapport de l'Église au monde qui est redéfini, d'ailleurs ça a été un désir vraiment du pape Jean XXIII, continué par le pape Paul VI et des pères conciliaires. Redéfinir en quelque sorte ce rapport de l'Église au monde. Et mais dans ce rapport de l'Église au monde, il y a quelque chose que l'Église sera toujours et que l'Église est, c'est une expression biblique, signe de contradiction. Alors ça c'est très important, dans le rapport au monde, c'est pas l'Église qui s'est mondanisée en quelque sorte, c'est ça le risque, en tout cas l'excès qu'il peut y avoir, mais c'est que l'Église est capable de parler au monde aujourd'hui. Et quand on dit que l'Église est capable de parler au monde, je me permets de signaler que cela signifie que les chrétiens, nous tous ici, rassemblés ici ce soir, qui sommes dans le monde, notre vie, ce qui se déroule dans le monde, et c'est là que nous sommes aussi Église. C'est-à-dire quelle figure de l'Église nous sommes dans ce monde, pour ce monde. Rapport de l'Église au monde. Deuxième point que le Concile Vatican II, en tout cas, idée que le Concile Vatican II évoque pour nous, c'est l'ouverture à l'écuménisme. Donc, le dialogue entre les catholiques et les chrétiens non catholiques. Et ça a été un désir très cher aussi au pape Jean XXIII, et qui, dans une émotion totale, en fait, lorsque le cardinal Béat lui présente les différents observateurs non catholiques qui sont là, aussi bon, des non-chrétiens, mais des chrétiens non-catholiques, et comment le pape exprime ce désir d'unité. Comment il les salue et exprime vraiment et voit en quelque sorte concrètement ce défi de l'unité des chrétiens peut être relevé. Donc ce dialogue, cette ouverture à l'écuménisme, qui je pense, je sais aussi pour Ernest, qui est une question importante. Donc c'est aussi une des réalités à laquelle le Concile Vatican II ouvre, les chrétiens catholiques nous ouvrent. Et troisième et dernière idée que le Concile peut représenter pour nous, c'est le renouveau liturgique. Le renouveau liturgique, c'est le premier document d'ailleurs qui a été promulgué dans le Concile, le Sacrosanctum Concilium, la constitution sur la liturgie. Et souvent, le Concile Vatican II est réduit à cet aspect, voilà, la liturgie, qui est important. Et cela signifie deux choses. Cela signifie que on voit bien comment cette loi qui nous vient du Moyen-Âge, qui dit la loi de la prière, c'est la loi de la foi, l'ex credendi, l'ex orandi, c'est-à-dire la manière de prier, c'est la liturgie, reflète notre manière de croire. L'ex credendi, l'ex orandi. La liturgie, c'est une expression de notre foi. Donc cela signifie que ça a été une question importante, puisque c'est là où parfois il y a un peu plus de crispation. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, cette simplicité à laquelle, en effet, le renouveau liturgique invite et appelle, frôle parfois, peut frôler la superficialité. Et souvent, on réduit le renouveau liturgique à cette unique question de simplicité. Et on oublie aussi la beauté de la célébration liturgique qui élève aussi à Dieu. Donc le renouveau liturgique, ce n'est pas une simplification pure et simple, mais c'est aussi, ou même encore plus, pour nous aujourd'hui, comment nous pouvons célébrer le Seigneur par une belle liturgie, comment nous pouvons faire refléter par nos liturgies cette beauté du ciel. Il est dit dans le Sacrosanctum Concilium que la liturgie sur cette terre est un avant-goût de la liturgie céleste. Alors je vous pose juste la question, là-haut, quelle liturgie aimeriez-vous avoir? Celle qui nous rapproche le plus de Dieu. Je pense que les 10 minutes sont passées. Mais merci de m'avoir écouté si vous avez des questions.
Vous venez d'entendre 1965-2025, une idée générale sur le Concile Vatican II, conférence présentée par l'abbé Riquet Totellus, enregistrée dans le cadre d'un cycle de conférences organisé par le relais paroissial de Cibourg sur le thème « Une église vivante, un monde à aimer ». 60 ans après le Concile Vatican II, célébrons l'espérance, enregistrement réalisé en septembre 2025.